OK. Hier, on a eu une méchante mauvaise nouvelle quand on a su que les Européens, là, les autorités politiques européennes, commençaient à mettre de la pression sur les fabricants de vaccins pour dire « Là, on va vous surveiller, on va surveiller le nombre de vaccins que vous sortez d'Europe. » Moi, j'y ai vu une menace à notre approvisionnement. Est-ce que Gary Cominger, microbiologiste et directeur du Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval, y a vu une menace, lui? Docteur Cominger, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Comment vous avez réagi?
Écoutez, c'est rien de nouveau. C'est la même chose qu'on a vu avec ce qu'on appelle les PPE, les ski masques, protection, les gants, les sarraux, etc. En passant que pas juste l'Union européenne, mais le Canada aussi, les États-Unis, la Chine, tout le monde a fermé leurs frontières. Ils voulaient pas que le matériel sorte des frontières. Fait que c'est malheureusement ce qu'on voit, c'est un petit peu un manque de coordination au niveau international. Puis les gens deviennent protectionnistes.
Oui, il y en a qui appellent ça du nationalisme vaccinal. Hein? Tu penses à tes intérêts avant de penser aux intérêts des autres. Vous allez me dire, c'est dans la nature des choses, c'est, pour ne pas dire dans la nature humaine, certainement dans la nature des États, mais dans un, tu sais, quand on combat une pandémie, on souhaiterait peut-être que les personnes se serrent les coudes davantage puis travaillent de façon, tu sais, comme partenaire plutôt que comme adversaire. Mais bon, revenons à cette menace de l'Europe. On a vu que Sanofi, la grande multinationale française, a décidé d'utiliser son usine en Allemagne pour fabriquer des vaccins pour Pfizer. Donc, Sanofi a des retards par rapport à son propre vaccin, décide donc de mettre à la disposition de Pfizer une de ses usines. Est-ce que ce serait pas possible, Dr Cominger, de trouver une usine comme celle-là chez nous? On n'a pas d'usine au Canada qui pourrait produire les vaccins, soit de Pfizer, soit de Moderna, pour qu'on ait notre propre source d'approvisionnement?
Malheureusement, pas pour l'instant. La seule capacité de production de vaccins qui existait ou qui existe encore au Canada, c'est GlaxoSmithKline dans la province de Québec, d'ailleurs pas loin de la ville de Québec, ou dans la ville de Québec. Mais c'est la production seulement qui se fait pour les vaccins qui se font dans les yeux, comme... en fait, le vaccin influenza principalement. Et donc, on n'a pas la capacité des vaccins. Pfizer, c'est des vaccins basés sur l'ARN, puis il n'y a aucune capacité de production au Canada. C'est sûr que les choses vont changer, donc sont déjà en train de changer. Il y a déjà une compagnie canadienne qui en produit des vaccins en ARN, mais c'est à petite échelle pour l'instant. Ça fait que pour l'instant, on n'a pas la capacité. On le sait depuis plusieurs années. Et que ça va donner l'occasion et l'opportunité de construire la capacité au Canada parce qu'on voit que c'est important. Mais vous avez tout à fait raison. C'est sûr que ce qu'on voudrait voir, c'est une meilleure coordination, un meilleur partage, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le Canada a quand même déjà commencé à avoir des doses. Puis la grande majorité des pays dans le monde ont reçu zéro. Ça fait que nous aussi, de notre côté, il faut qu'on voit ça aussi avec un effort international puis qu'on dise... Ben, peut-être qu'au lieu qu'on reçoive les prochaines millions de doses, ben, on pourra recevoir 500 000 puis en donner 500 000 à quelqu'un d'autre. Puis si tout le monde faisait ça, on approcherait le problème de façon surtout plus uniforme. Puis c'est ça qu'il faut faire en maladie infectieuse, parce que même si un pays vaccine sa population, peut-être qu'ils vont être vaccinés, mais si 80% de la planète n'a pas de vaccin, puis où il y a de la propagation qui continue, le problème va toujours continuer à revenir.
Oui, ça c'est intéressant. Vous dites, quand on se compare, le Canada s'en sort pas trop mal présentement, malgré la décision de Pfizer de ne pas nous livrer, de vaccins cette semaine, puis de nous en livrer moins que prévu dans les semaines qui viennent. Vous considérez qu'on s'en sort pas trop mal au niveau de l'approvisionnement, là?
Mais écoutez, la réalité, c'est qu'on n'en a pas de capacité de production au Canada. Comme j'ai dit, c'est pas une nouvelle, on le sait depuis des années. Fait que oui, non, je pense que on s'en sort assez bien. Le portfolio des vaccins canadiens est large. Il y en a plusieurs sur la liste. Il y a plus de commandes qu'il y a de Canadiens. Puis c'est pas parce qu'on en a besoin de plus qu'un vaccin. C'est parce qu'au moins les doses excédentes vont pouvoir être partagées justement avec le reste de la planète. Mais ce qui est difficile évidemment là-dedans, c'est de faire ça de façon coordonnée, comme j'ai dit, puis de façon uniforme en temps réel, pas de dire qu'une fois que notre population va être vaccinée dans un an, ben là on va commencer à vacciner ailleurs. Oui. Parce que sinon on va être encore en train de faire ça dans 10 ans.
Là, il y a le vaccin de AstraZeneca là, qui est étudié actuellement par Santé Canada. Il a été approuvé par la Grande-Bretagne. Il est en voie d'approbation par les autorités européennes. Est-ce que c'est normal que ça prenne autant de temps pour l'approbation du vaccin AstraZeneca, M. Gomega?
Ben oui, en fait, normalement, ça prend beaucoup plus de temps même. Tout ça, c'est faut réaliser que c'est des cédules ou des
étapes
accélérées.
Des étapes.
Oui, c'est des étapes très accélérées. Puis l'avantage que peut-être Pfizer et Moderna ont eu, c'est que eux, ils étaient les premiers en ligne. Ça fait que déjà, les agences de régulation les suivaient depuis plusieurs mois. Dès qu'ils généraient des données, ils pouvaient avoir accès à ces données pour les étudier, etc. Tandis que là, ben ceux qui arrivent en deuxième, troisième, quatrième, ben ils soumettent plus des données d'un coup. Ça fait que ça prend plus de temps, évidemment, à ces agences de régulation de passer à travers toute l'information qui est générée et qui est disponible pour en venir avec une décision. En bout de ligne, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il faut que ce soit des décisions qui sont solides ou ce qui prime, c'est la sécurité des gens. Et deuxièmement, que ça serve à quelque chose, ça veut dire que les gens soient protégés suivant la vaccination.
Donc, vous, quand vous entendez Justin Trudeau dire là que malgré les retards, moi, Justin Trudeau, je pense qu'on va avoir toute la population canadienne de vacciner d'ici la fin septembre, est-ce que vous le croyez quand vous entendez ça?
Je pense que c'est possible, oui, certainement. Toute la population qui va vouloir avoir accès au vaccin, je pense que ça va. C'est possible encore pour la fin septembre. Mais justement, je pense que c'est le début de la courbe maintenant, si vous voulez. C'est plus difficile au début. Les centres de vaccination, les doses de vaccination. Je pense qu'on peut s'attendre à une accélération très importante, printemps, début été. Puis quand on a, si on a par exemple, je donne un chiffre comme ça, mais si on aurait par exemple 10 000 centres de vaccination à travers le Canada qui seraient opérationnels avec toutes les doses dont ils ont besoin, c'est que disons qu'on arrive là en juin, vous allez voir qu'il y a des gens, c'est pas long à vacciner, hein, ça prend 10 secondes de recevoir une injection dans le bras, ça fait que ça va très vite, tous les gens vont pouvoir aller très vite pour vacciner les gens.
Je rappelle qu'à 14h15, 14h20, là, on va avoir justement le directeur de la campagne québécoise de vaccination dans l'émission, Daniel Paris, qui va nous dire comment il va préparer cette vaccination de masse. Si on regarde les deux vaccins qu'on a, Moderna et Pfizer, est-ce qu'ils sont à la hauteur de ce qu'on espérait? Est-ce qu'il y en a un qui a l'air meilleur que l'autre? Le bilan, mettons, là.
Ouais. Pour l'instant, ils sont équivalents, comparables dans les données qu'on voit. Évidemment, on est encore au début, hein, au niveau de quand on parle de vacciner au niveau de la population, donc une population, quand même aux États-Unis, ils sont rendus à 1,5 million de personnes par jour, mais ils sont 330 millions. C'est que dans ce qu'on voit, les deux vaccins sont équivalents à tous les niveaux. Mais ce qui va être intéressant présentement, puis ce qui est un peu difficile, je vais vous dire, c'est que les données qui sortent sont pas communiquées souvent en temps réel. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent sur des données qui n'existent pas encore. Je vous donne un exemple. Mm-hmm. Les compagnies aériennes qui pensent que la vaccination, ça va arrêter la transmission comme telle, ça, c'est pas encore supporté par les données. Tout le monde s'attend à ce que ça fasse ça, mais c'est pas encore démontré. Ce qui est démontré, c'est que la vaccination, ça protège contre la maladie sévère, contre la maladie, en fait, contre la maladie clinique de COVID. Ça, c'est démontré. L'impact de la vaccination sur la transmission, ça, c'est encore à démontrer. On n'a pas de chiffre encore précis. Fait que ça va venir bientôt. Et faut juste s'assurer quand on parle de quelque chose qu'on parle, c'est plus facile de parler de choses qui sont supportées par des données plutôt que de ce qu'on s'attend ou ce qu'on espère. Pour l'instant, les données qui sont disponibles, les deux vaccins sont équivalents en termes de protection, aussi en termes d'effets secondaires.
Dr Gary Cominger, microbiologiste, directeur du Centre de recherche en infectiologie de l'Université Laval. Merci, Gary. Bonne chance.
Merci, Justin. Bonne journée à tous.
Vous aussi, Luc.
Moi, Bernard, ce que j'ai trouvé intéressant dans ses propos, c'est quand il a dit, je pense qu'on l'a soulevé nous-mêmes hier, c'est qu'on ne peut pas avoir 25 % de la planète vaccinée puis l'autre 75 qui ne l'est pas parce que ça ne réglera pas le problème. Et j'aimerais que les scientifiques commencent à nous donner des chiffres, des modèles. Parce que, qu'est-ce que tu veux, les États-Unis? Tu prends les États-Unis, là. Mm-hmm. Bon, la Californie, c'est le Mexique qui est là, puis c'est vis-à-vis du Texas. Puis c'est, donc, si le Mexique n'est pas vacciné, puis le flot entre les deux, y inclus les illégaux, est tel que... il va, tu sais, moi, je me suis dit au début de cette pandémie, c'est la première fois que... Bon, enfin, Comme ça, là, c'est la première fois, à première vue, que l'humanité est confrontée à un ennemi commun. On a exactement le même ennemi. Tout le monde, peu importe qui on est, superpuissance, pays riche, pays pauvre. J'aurais tant aimé, mais je rêve, que tout le monde se mette ensemble. Et que, parce que là, ce qu'on va vivre, c'est une sorte de chaos, d'anarchie, de tir la couverte.
Mais Luc, c'était, je veux pas être cynique, là, mais c'était inévitable, là. Surtout dans une affaire de vie, tu sais, quand il est question de vie ou de mort, c'est sûr que les gouvernements puis les pays vont servir les intérêts de leurs concitoyens avant de penser aux autres. Là, c'est plate de même, mais c'est ça pareil. Là.
Ouais, mais je te jure que je suis pas naïf, mais c'est parce que si jamais on fonctionne tous en fonction de
nos intérêts, ouais.
Ouais, ben le nationalisme vaccinal, hein, si on fonctionne tous comme ça, on va arriver dans le mur. Il faut qu'on vaccine la planète, c'est très, très important. Et il faut trouver une façon de travailler ensemble, parce que le chaos qu'on vit là, j'espère que dans 2-3 semaines, ça va être calmé. Parce que, tu sais, on est tous là-dedans ensemble. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de culture. On est tous des humains qui peuvent mourir de cette bébite. Et si on en soigne, ou si on en protège uniquement un pourcentage comme les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, quelques autres pays riches, mais on n'est pas bien avancé tous ensemble.
On va avoir l'occasion d'en reparler, Luc, plus tard.
À tantôt.
OK, on s'en va à la pause. Au retour, on va faire le point sur notre baleine à bosse. Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de son décès à notre baleine à bosse? Et puis, qu'est-ce que ça nous a apporté tout ça avec un peu de recul dans un instant?